No.
Non.
Très bien.
Parce que bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Ça n'a rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance.
Bu de l'alcool et fumer du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
Un fasciste.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède?
Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Voilà, il est 19h passé de quelques minutes, 3 très exactement, la pendule de la plus rebelle des radios. Il est l'heure du Canu Info, comme tous les jours de la semaine, 19h-20h. L'équipe du jeudi, c'est...
Delphine, bonsoir.
Et Laurent. On va faire le tour de l'actualité avec un Canu Info un peu particulier, puisqu'on nous avons deux reportages aujourd'hui. Un sur un petit événement qui a eu lieu sur les pentes de la Croix-Rousse, en hommage à une agression homophobe. Donc ça s'est passé, pas l'agression mais l'événement, ça s'est passé samedi dernier. Et puis autre événement, un petit reportage, enfin un long reportage sur la manifestation pro-palestinienne pour dénoncer l'agression israélienne. C'était samedi dernier, place Bellecour, le départ de la manif. Et on a notamment un extrait du témoignage de quelqu'un qui était sur un des bateaux arraisonné par l'armée israélienne. Donc voilà, on va commencer tout de suite par l'info internationale avant d'écouter ce reportage, justement en lien avec le conflit israélo-palestinien. On a appris donc hier qu'une mosquée avait été à nouveau attaquée en Israël. Alors c'est pas la première depuis le début de l'année, il y a eu l'histoire de cette mosquée qui a été brûlée. Alors, tout de suite, les Palestiniens israéliens ont dit c'est une attaque des colons juifs, etc. La police avait d'abord dit non, c'était autre chose. Et puis finalement, c'était bien une attaque d'Israéliens contre cette mosquée. Et là, donc, hier, une mosquée a été taguée à l'extérieur, taguée avec des insultes assez classiques, des petites phrases un peu ironiques et agressives du style « promu à la démolition » ou « il y aura bientôt une guerre en Judée-Samarie ». Alors Judée-Samarie, c'est le nom de la Cisjordanie, c'est le nom qu'Israël donne à la Cisjordanie. Donc on sent bien que c'est une attaque des groupes d'extrême droite ou de droite dure israélienne qui se met effectivement à attaquer, à taguer, à mettre le feu sur des mosquées, aussi bien en Cisjordanie d'ailleurs que qu'en Israël. Donc voilà, c'est un faux. Et puis sinon, toujours en lien avec la flottille qui avait été attaquée par l'armée israélienne, aujourd'hui, c'est Barack Obama qui a un peu tapé du poing. Alors, quasiment tous les pays ont condamné l'action d'Israël. La France a été un peu particulière, puisque la majorité, presque tous les pays ont demandé qu'il y ait une enquête internationale. Tous sauf la France, ou une partie de la France, du gouvernement français, puisque Fillon, lui, avait demandé qu'il y ait une enquête internationale. Et Sarkozy, en pro-israélien qu'il est, avait plutôt demandé qu'il y ait une enquête israélienne. Voilà. Donc la France se fait remarquer avec ce président pro-israélien, pro-colonisation, en soutien donc à la politique d'Israël. Donc voilà, alors là, c'est Barack Obama qui tape sur la table en disant que, il faudrait vraiment qu'il y ait une enquête internationale et qu'il faudrait trouver une solution pour une solution humanitaire à Gaza. Alors, faut dire qu'hier, il a rencontré Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Ils ont discuté de ça et vraisemblablement, les propositions qu'a fait Netanyahou et ses amis n'ont pas beaucoup plu à Barack Obama, qui commence à penser qu'ils sont allés un petit peu loin. Voilà. Donc, il faut dire que la réponse d'Israël officielle, puisqu'ils se sont réunis, je crois, avec les 7 principaux ministres israéliens, ils ont décidé de créer une commission juridique dont le mandat se bornerait simplement à vérifier que le blocus de Gaza et l'abordage d'un navire transportant des militants pro-palestiniens sont conformes au droit international. Voilà, ils sont juste en train de vérifier ça. Alors, bon, sauf qu'on peut le répondre, d'ores et déjà. Le blocus, il est illégal, puisqu'il y a déjà eu des condamnations. À raisonner un navire qui apporte de l'aide humanitaire dans les eaux internationales, c'est illégal aussi, il n'y a pas besoin de faire une commission. Vraisemblablement, c'est la réponse aujourd'hui d'Israël à la communauté internationale demandant une enquête. On espère que Barack Obama va pouvoir faire plier le gouvernement israélien. Puis dans la série, les bateaux d'aide humanitaire vont continuer d'arriver, et c'est tant mieux, puisqu'on a un bateau qui s'appelle le Gush Shalom. Le bateau s'appelle pas le Gush Shalom, il s'appelle le Jewish Boat, le bateau juif. Il faut dire que ce sont des juifs européens et surtout des juifs allemands qui ont affrété ce bateau et qui va amener de l'aide humanitaire en Israël, pour rappeler que tous les juifs ne sont pas derrière la politique colonialiste, assassine, meurtrière de l'État d'Israël. Donc voilà, on l'a appris de l'association qui s'appelle Gush Shalom, un bloc de la paix, qui est une association israélienne qui se bat pour la paix. Donc on va être curieux de voir ce qui va se passer avec ce bateau. Est-ce que l'armée israélienne et l'État israélien va avoir la même attitude qu'envers les autres bateaux qui contenaient des non-juifs, et que là, si c'est un bateau contenant des juifs, ils vont peut-être faire autre chose. En tout cas, on espère qu'ils le laisseront passer, parce que ne serait-ce que pour l'aide humanitaire que ça peut amener à la bande de Gaza.
Il y a un très bon article sur Bibi, Netanyahou, dans le Canard enchaîné de cette semaine, qui réexplique justement comment cet homme aime la violence, la guéguerre, et qu'il est prêt finalement à toujours opter pour la solution guerrière plutôt qu'à une autre solution au niveau de la diplomatie. Cet article est très très bien, je vous invite à le lire.
Voilà, et je vous rappelle quand même que Netanyahou, il n'est pas tout seul, puisque Ehud Barak, qui est censé être travailliste, donc plutôt à gauche, il a donné son feu vert aussi à l'opération meurtrière qui a tué au moins 9 personnes, c'est le chiffre officiel. Le chiffre officieux, c'est aux alentours d'une quinzaine de morts. Alors on écoute le reportage fait donc la semaine dernière au départ de cette manifestation. Et j'ai choisi finalement la version longue du reportage. On a une minute à la fin d'engueulade où on entend un groupe d'extrême droite se faire virer de la manif. C'est un peu brouillon, mais c'est intéressant de la voir, et puis ça fait plaisir quelque part qu'ils se soient fait virer de la manif. Ça a été un peu difficile, mais voilà, ils ont pu être exclus. Voilà ce reportage. Ça dure une dizaine de minutes. Voilà, nous sommes sur la place Bellecour en ce samedi 5 juin pour une manifestation pro-palestinienne. Alors comme d'habitude, beaucoup d'ambiguïté, puisque entre les drapeaux nationalistes turcs, les slogans nationalistes, des slogans pour défendre aussi la Palestine. Donc voilà, une manif entre les femmes voilées, les barbus, les communistes qui sont là, qui prennent la défense de la Palestine. Le point commun de la défense du peuple palestinien semble réunir des fractions totalement différentes et isolées. Israël, 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 Israël.
Palestine, comme vous le savez, c'est une association de jeunes qui défend les droits des Palestiniens. Donc depuis le départ, on a participé donc à l'organisation de ces différentes manifestations. Et ce qu'on demande, nous en tout cas, c'est la libération de tous les prisonniers de la flottille. On demande aussi la libération de tous les prisonniers palestiniens. Il faut savoir qu'il y a 11 000 prisonniers palestiniens, 11 000 prisonniers politiques, dont Salah Hamouri, franco-palestinien, dont on ne parle jamais, et qui est un Français comme à part entière. Quand Sarkozy dit « J'irai chercher tous les Français détenus partout dans le monde », il ne parle jamais de Salah Hamouri. Donc nous, on demande la libération de Salah Hamouri, qui depuis 5 ans, est dans les prisons israéliennes, et dont on ne parle pas. C'est injuste. Il a été condamné pour un crime qu'il n'a jamais commis.
Donc la question est une question politique, ce n'est pas non plus une question religieuse. Nous ne sommes pas ici pour défendre la cause palestinienne en tant que musulmans, même s'il y a une dimension musulmane qu'on ne peut pas nier, qui est la dimension d'Al Quds. Et qu'on doit défendre tout ce qu'on dit, on doit rester sur le champ politique, parce que ce qui se passe aujourd'hui est un crime commis par une entité politique qui vise à coloniser et à occuper une terre d'autrui. Donc soyons vigilants, s'il vous plaît. Pas d'appel à la haine, pas d'appel antisémite, pas d'appel à la violence. Nous avons une manifestation qui doit se faire dans le respect de la tradition de manifestation lyonnaise qui, depuis plus de 20 ans, ont été faites sans aucun débordement. Donc on va être, Inch'Allah, à la hauteur de nos engagements de responsabilité. On va donner la parole à Salah, qui a fait partie du convoi humanitaire, qui a fait partie de l'équipe humanitaire, les 700 qui sont partis sur les 6 bateaux, et qui est revenu hier. Il a été arrêté pendant 48 heures, dans les bateaux arraisonnés, et on voulait avoir son témoignage. Donc on va juste lui prendre 5 minutes pour qu'il nous raconte comment ça s'est passé, comment s'est passé le départ, comment ils ont été arraisonnés, comment ils ont été arrêtés et comment s'est passé le retour. Donc Salah, bienvenue chez toi. Merci de nous avoir montré l'exemple d'une des formes de résistance et de soutien au peuple palestinien. Donc tu nous racontes comment s'est passé le départ et comment vous avez été arraisonnés en pleine mer.
Alors en fait, nous sommes partis le 22 mai de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en direction d'Athènes. Donc en fait, pour rejoindre notre bateau grec et le cargo affrété par le CBSP, en fait ce cargo transportait des maisons préfabriquées pour les habitants de Gaza. En fait, une centaine de maisons préfabriquées pour les enfants de Gaza, les familles, et des fauteuils roulants électriques. Donc pendant 2 jours, on a chargé toute cette marchandise destinée aux plus défavorisés à Gaza. Et le 24 mai, nous sommes partis en direction de Chypre pour récupérer des parlementaires chypriotes. Quand nous sommes arrivés à Chypre, les autorités chypriotes nous ont interdit l'entrée dans leurs eaux territoriales. Donc on a dû abandonner ces parlementaires chypriotes. Donc le 26 mai, nous nous sommes dirigés vers les autres bateaux. Donc nous avons rencontré le bateau turc, un cargo turc, un cargo affrété par l'Algérie et un cargo affrété par les Grecs. Donc quand tous les bateaux se sont rencontrés, donc ils ont décidé d'une marche à suivre, en fait de naviguer tous ensemble en direction de la bande de Gaza. Donc on a fraternisé entre tous les bateaux, on était vraiment tous solidaires entre nous. Donc ce qui s'est passé, le jour en fait de l'agression israélienne criminelle, donc le lundi 31 mai, à partir de minuit, il y a un avion israélien nous a survolé en fait pour prendre nos positions. Donc à partir de là, l'ordre a été donné à toutes les personnes qui étaient dans le bateau de porter leur gilet de sauvetage. À 2h30, on a eu une première alerte. On est tous sortis, mais rien ne s'est passé. Et à 4h30, là, cette fois, on nous a dit de sortir, qu'il se passait quelque chose. Donc moi, je suis sorti sur le pont. J'ai regardé comme ça et j'ai vu une vedette de la marine israélienne et plusieurs zodiacs qui se dirigeaient sur nous.
Assassin, assassin, Israël, assassin, Israël, assassin, Israël, assassin, Israël, assassin, Israël, assassin, 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 assassin.
donc après, ce qui s'est passé, c'est que moi, je regardais comme ça, j'étais vraiment choqué. Ils se sont pris d'abord au bateau turc. Donc, ils ont essayé de l'attaquer par l'arrière en jetant des grenades assourdissantes. C'était vraiment incroyable. Je me disais, mais jamais ils pourraient attaquer un tel cargo. Ils nous ont attaqué dans les eaux internationales. On ne s'attendait vraiment pas à ça. Ils ont choisi de nous attaquer en pleine nuit à 4h30 du matin. Donc ils ont essayé d'attaquer le bateau turc par l'arrière, ils n'arrivaient pas à progresser. Donc ce qu'ils ont fait, ils se sont pris à notre bateau grec en fait, où il y avait plus d'une cinquantaine de personnes. Donc ça, ce que je vous dis, ça s'est passé vraiment très 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 vite. Ils ont abordé notre bateau, donc ce qu'on a fait, on a tous essayé de se réunir sur le pont supérieur pour protéger la cabine de pilotage de notre capitaine de bord. Donc à peine je suis arrivé en haut, il y avait déjà des soldats israéliens présents. Donc ce qu'ils ont fait, ils nous ont menacés avec leur M16. Nous, on a essayé de résister pacifiquement, les empêchant de prendre le bateau. Donc ce qui s'est passé, ils nous ont attaqué avec toutes sortes de choses, des tasers électriques. Ils nous ont avec des flashballs. Il y a une jeune femme qui a reçu un coup de flashball en plein dans la nuque. Donc nous, ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient à trois sur le capitaine de bord qui ne voulait pas lâcher les commandes du bateau. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où moi et une autre personne, on a essayé de lui venir en aide, ils nous ont jeté une grenade assourdissante qui a touché la personne qui était avec moi au niveau de son œil et de son oreille. Donc à ce moment-là, on a reculé comme ça, je me suis fait braquer et un commando israélien qui m'a dit « Navy Seals » et il a chargé son fusil à harpon en ma direction. Donc ce que j'ai fait, j'ai reculé. Il y a deux personnes de notre groupe qui ont essayé de lui sauter dessus, je les ai retenus, je leur ai dit « c'est bon, ça sert à rien, le bateau a été pris, ça sert à rien de continuer ». Donc là, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait les personnes qui voulaient continuer parmi nous à résister. On les a empêchés, je pense qu'on leur a évité de mourir parce qu'ils allaient leur tirer dessus. Les soldats israéliens eux-mêmes étaient effrayés.
On va encore interroger Salah sur le traitement différencié. Est-ce qu'il y a eu un traitement différencié selon les bateaux, selon les compositions des bateaux?
Bon, alors, moi je vais vous parler maintenant parce que nous on n'a pas eu une. Ça n'a pas été difficile, ça n'a pas été meurtrier comme ce qui s'est passé dans le bateau turc, le Marmara. Donc je ne vais pas m'attarder sur mon propre témoignage. Mais j'ai discuté avec des gens qui étaient dans le Marmara. Ça a été vraiment terrifiant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand les commandos israéliens sont descendus sur le bateau turc, ils ont... En fait, les Turcs leur ont opposé une résistance héroïque. Donc, les Israéliens étant paniqués face à cette résistance, ils se sont mis à tirer. Ils ont vu que sans... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont tué... Une fois qu'ils n'arrivaient pas à prendre le bateau, ils ont tué plusieurs personnes. Il y avait plusieurs personnes qui étaient mortes sur la terrasse du bateau, d'autres personnes qui étaient mortes ou qui étaient en train d'agoniser. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de là, le capitaine de bord du bateau turc a dit « c'est bon, on abandonne toute résistance ». Parce qu'il y avait des gens qui étaient en train de mourir. Donc je pense que sans l'ordre du capitaine de bord, ils n'auraient jamais pris le bateau turc. Voilà.
Un dernier mot sur l'arrestation, sur votre arrestation. Combien de temps vous êtes resté, comment vous avez été traité et comment vous avez été expulsé?
Donc ce qui se passe quand ils nous ont arrêtés, donc ils nous ont emmenés dans une prison à Ashdod. Donc d'abord, en sortant des bateaux, ils nous ont traités comme des chiens. Donc on était sortis un par un par des militaires. On est passé par tous les services israéliens, des interrogatoires. On nous a pris en photo, on a pris notre empreinte digitale. Et on nous a conduits vers la prison israélienne dans le Naqab, en fait, le Negev. Et ce qui s'est passé, c'est que donc là-bas, on subissait souvent des interrogatoires. On avait des agents du Mossad qui étaient souvent dans les prisons pour venir nous impressionner ou pour repérer les meneurs. Donc ce qui s'est passé, bon, je vais essayer de ne pas être très long, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, ils ont tabassé toutes les personnes qu'ils avaient repérées, qu'ils avaient, on va dire, une fonction importante au niveau de Free Gaza. Donc un journaliste italien a été tabassé, ils lui ont infligé vraiment un traitement horrible, et là actuellement il est dans un hôpital en Italie.
Merci beaucoup, Salah. Continuez au combat.
Alors on est toujours dans cette manifestation pro-palestinienne devant un groupuscule particulier puisqu'ils ont des drapeaux français, ils ont habillé un peu en kaki, c'est l'extrême droite, égalité et réconciliation. Les Soraliens qui sont là pour défendre aussi la cause palestinienne ou plutôt c'est peut-être l'antisémitisme toujours présent dans l'extrême droite française qui s'exprime ici.
Combattre Sarkozy.
À partir de quelle idéologie vous le combattez? À partir d'une idéologie antisémite? Non, on n'en veut pas. On n'en veut pas.
Vous êtes nationaliste. J'ai le droit de manifester comme vous. Je suis patriote français, j'aime mon pays, j'aime toutes les nations libres du monde.
Et je suis un fasciste, donc vous dégagez.
Il y a l'organisateur qui a parlé et qui a dit ceux qui sont le groupe.
Comment il s'appelle ce groupe?
Réconciliation, identité, égalité et réconciliation.
Le groupe là qui est...
Oui, ce petit groupe qui avait des drapeaux français là.
Oui, voilà. Des Soraliens.
Des Soraliens, des gens de Soral, de l'extrême droite. Ils n'ont rien à faire là.
Voilà donc pour ce reportage dans cette manifestation. Donc la fin était un peu apocalyptique, mais c'était sympathique de montrer que ce groupe d'extrême droite qui s'était déjà incrusté au premier rassemblement le lundi a pu être exclu par l'intervention de militants. Bon, ça a été difficile de convaincre la sécurité parce qu'ils n'étaient pas pour les exclure au départ. Avec l'excuse de tant qu'ils n'ont pas tenu de propos antisémites, on ne les vire pas, même s'ils sont antisémites. Mais là, bon, finalement, ça a fonctionné. Alors justement, dans la suite de l'actualité, on reste un peu dans le coin avec, vous avez peut-être entendu ou pas, que les sanctions contre l'Iran ont été augmentées une fois de plus. C'est la quatrième fois en quatre ans que le Conseil de sécurité de l'ONU sanctionne l'Iran, toujours pour ses activités nucléaires suspectes, entre guillemets. Donc ça a été rédigé, comme d'habitude aussi, par les États-Unis, coparrainé par l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne. Cette résolution 1929 a été adoptée à 12 voix pour, 2 contre et 1 abstention. Ce qu'on notera, c'est que d'habitude, la Russie utilise son droit de veto. La Chine aussi, et là, pas du tout. Donc l'Iran est lâché par la Russie. Alors ça fait déjà quelques mois qu'on le sentait, et aussi par la Chine. Donc voilà, alors les sanctions, c'est plutôt de l'ordre du symbole, parce que ça n'a pas changé grand-chose. On interdit la vente de certaines armes à l'Iran. Il y avait déjà certaines armes qui étaient interdites à la vente, mais là, d'autres types d'armements lourds sont interdits, notamment les chars, ce qui n'a rien à voir finalement avec le nucléaire, mais bon, on fait ça. Et puis, il y aura un contrôle accru des bateaux en mer, mais c'est à peu près tout. C'est assez marrant d'ailleurs de voir ces sanctions qui sont de l'ordre du symbole et qui ne sont pas réelles. Il y aurait une sanction très efficace contre l'Iran, c'est de bloquer les exportations de pétrole, puisque l'Iran vit essentiellement avec ses exportations de pétrole. Sauf que personne dans l'Occident est prêt à prendre le risque de déstabiliser le marché du pétrole, puisque tout le monde est dépendant du marché du pétrole. Donc c'est quand même assez ironique de voir tout ça. Alors, ça bouge en Iran, par contre, suite à ça. Et alors, l'Iran ne se positionne pas bien. Alors, ils ont condamné, naturellement, la résolution et dit qu'ils poursuivraient l'enrichissement d'uranium. Sauf que, dans cette résolution, il y a aussi une sorte de main tendue au dialogue, à continuer le dialogue. Et là, les dirigeants iraniens sont perplexes. Donc aujourd'hui, en fin d'après-midi, il n'y avait pas de discours officiel pour dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on condamne, est-ce qu'on fait la gueule ou est-ce qu'on discute avec tout le monde. Ils ont quand même dit, c'est le chef du programme nucléaire iranien, Ali Akbar Salehi, qui a dit qu'ils étaient prêts à dialoguer, notamment avec l'Agence internationale de l'énergie nucléaire. atomique plutôt, pour l'échange de combustible qui est prévu avec la Turquie et le Brésil. Hein, l'idée, c'est que du combustible seulement utilisable dans les centrales pour produire l'électricité pourrait passer entre les mains de la Turquie et le Brésil et arriver après en Iran, puisque c'est des combustibles qui seraient non utilisables pour fabriquer des bombes atomiques. Donc voilà, la situation est pas totalement bloquée malgré cette résolution. Et puis ça a fait réagir certains, notamment le Guardian a ressorti sorti des infos, parce qu'en fait Israël pousse sur ses résolutions. C'est pour le coup, les Américains sont le bras armé d'Israël contre l'Iran. D'ailleurs, dimanche dernier, Benjamin Netanyahou a dit que le plus gros danger auquel l'humanité aurait à faire face serait qu'un régime radical dont la cruauté n'a pas de limite entre en possession d'armes nucléaires. Donc il parlait de l'Iran, naturellement. C'est intéressant parce que ça a permis donc au Guardian de ressortir des infos et de rappeler que un régime radical, ultra dangereux, ultra raciste, il y en avait un dans les années 70, 80, 90 qui s'appelait l'Afrique du Sud, et qu'il y avait eu une négociation, et Israël avait prévu de vendre des armes nucléaires, alors qu'on rappelle qu'aujourd'hui encore Israël n'assume pas d'avoir la bombe atomique, ils font semblant, hein. Et donc il y avait une négociation entre Israël et l'Afrique du Sud pour acheter des bombes atomiques. Et Israël avait de toute façon fait beaucoup de commerce avec l'Afrique du Sud de l'apartheid. Donc voilà, c'était quand ça arrange les Israéliens, c'est mal de. Et puis quand ça les arrangeait pas, c'était bien. Il faut dire quand même, pour rappeler les choses, c'est que le régime de l'apartheid, c'était des blancs très méchants, très racistes, qui pouvaient ressembler aux dirigeants israéliens de l'époque. Et c'est peut-être pour ça qu'ils s'entendaient, notamment sur les ventes d'armes. Heureusement, l'Afrique du Sud s'est passée de la bombe atomique avant la chute de l'apartheid. C'est une fois de plus les Blancs qui ont eu peur de laisser cette arme aux Noirs qui arrivaient, qui prenaient le pouvoir. Le racisme a eu un effet positif, c'est peut-être le seul qu'il y a jamais eu au monde, c'est de faire qu'il y ait eu démantèlement des armes nucléaires sud-africaines. Enfin voilà, donc pour tout ça. Encore quelques petites infos internationales, avec une petite info sur les Pays-Bas. C'est alors on a vu l'info dès hier soir, mais on a confirmation aujourd'hui des votes, hein, puisqu'il y avait une élection aux Pays-Bas. Alors faut savoir que personne n'a gagné, c'est ça le résultat officiel. Les travaillistes sortent avec 31 sièges, alors le Parlement en compte 150. Donc les travaillistes, 31 sièges. C'est pas terrible. Le parti libéral VVD, qui sort grand gagnant, décroche un petit peu plus de sièges, mais moins de 40. Donc c'est voilà. Personne a la moitié des sièges, donc personne est maître du Parlement. Et surtout, on notera la percée du parti d'extrême droite, le Parti de la Liberté, qui décroche 24 sièges. Donc seulement 6 en dessous des travaillistes et une dizaine en dessous du VVD. C'était déjà un parti donc nationaliste, anti-immigration, anti-islam, très fort, qui demande par exemple l'interdiction du Coran, enfin des choses comme ça. C'est au nom du racisme et non pas d'un anticléricalisme qui n'existe pas dans cette formation d'extrême droite qui est très chrétienne. Donc voilà, c'est l'inquiétude, et c'est dans tous les pays du nord de l'Europe, hein, on a la montée de cette extrême droite. On l'a vu en Belgique, on l'a vu ailleurs. Et alors, l'hypothèse la plus probable, c'est que quand même le centre-gauche, il y a une sorte de coalition de centre-gauche réunissant le VVD, le Parti travailliste, et quelques petits partis de gauche comme les Verts et d'autres petits partis. Et s'ils arrivent à s'entendre, ils vont pouvoir gouverner sans avoir besoin, et surtout sans faire de lien avec d'accord avec l'extrême droite. C'est la théorie en cours aujourd'hui. On espère que ça sera ça, parce que sinon ça risque d'être effectivement catastrophique. Donc voilà, on va parler un petit peu de la France maintenant, et peut-être commencer par le petit reportage. Tu nous le présentes ?
Alors donc c'est samedi, en nous promenant sur les pentes de la Croix-Rousse, nous sommes tombés sur des adhérents d'une association qui s'appelle 4 heures du mat, qui avait installé donc des chevalets avec des pancartes dessus, des photos en noir et blanc qui nous raconte une histoire, en fait. Hein, c'est un peu comme si on vous remettait en scène ce qui s'était passé. Les personnages, du coup, sur ces photos portaient des masques blancs. Donc ça nous a un petit peu interpellés à la fois ces photos et ces panneaux explicatifs. Et donc ça nous racontait l'histoire de cet homme, ce jeune homme, ce garçon, qui, en rentrant, en se baladant un soir par ce jardin monté de la Grande Côte, s'est fait agresser parce qu'il était homosexuel. Et donc cette association a souhaité un an après à la fois évidemment lui rendre hommage, mais surtout mettre montrer, si vous voulez, que l'homophobie et les agressions sur les homosexuels, c'est quelque chose de malheureusement encore courant dans notre société. C'est bien dommage. Donc c'est une association qui travaille depuis la création de cette association, qui travaille donc sur cette revendication sur l'homophobie, qui a par exemple mis en place un petit sondage que vous pouvez trouver sur internet pour que justement les gens racontent un petit peu ce qui leur arrive. C'est très intéressant puisqu'il n'existe aucun support, on va dire, officiel finalement de ces agressions.
Et puis surtout que c'est un peu comme le racisme au quotidien, c'est pas toujours des gens qui se font taper dessus, mais le racisme ou l'homophobie, qui est une forme de racisme, s'exprime des fois juste par des sales pédés, casse-toi, ou voilà, des choses comme ça.
L'agression verbale. La première.
Voilà. Et celle-là, elle est jamais comptabilisée.
Malheureusement, ce soir-là, c'était une agression qui était bien physique. Donc, il souhaitait effectivement replacer cette agression dans un contexte plus large. Rappeler aussi tout son cheminement juridique, parce que vous savez bien, hein, c'est comme lorsqu'une femme est violée, ce sont des cheminements qui sont très durs, extrêmement violent, hein. La police n'est pas connue pour être d'un grand secours dans ces cas-là, hein, même si on sait qu'il y a des services dans lesquels l'accueil et l'accompagnement s'améliorent. Donc voilà, on a été un petit peu leur poser des questions suite à cette rencontre. On vous laisse écouter ça.
Donc voilà, on est samedi, on est monté de la Grande Côte avec des gens de l'association 4h du Mat. Donc ils ont mis des textes avec des photos, ils vont nous expliquer ce que ça représente, qu'est-ce qui s'était passé, parce que ça raconte une histoire qui est plutôt triste. Expliquez-nous un petit peu cette histoire et après pourquoi aussi vous êtes là aujourd'hui à nouveau.
Alors cette histoire en fait, c'est l'agression d'un jeune homosexuel sur le jardin de la Grande Côte qui a eu lieu en novembre 2007. Et les panneaux sont là pour raconter à travers des photos qui ont été prises par une photographe amatrice et des comédiens l'histoire de cette agression, ce qu'il a vécu, le parcours un peu juridique aussi qu'il a traversé. Voilà, donc c'est une histoire qui nous a touchés puisque c'est quelqu'un qu'on connaît bien et du coup on a voulu un peu se mobiliser et puis rendre un peu ça transparent aux yeux des gens, parce que je pense qu'on n'en parle pas forcément beaucoup et surtout en ce moment, donc voilà.
Donc c'était une agression ouvertement homophobe, en fait, ils ont...
Oui, alors en fait, ils sortaient de soirée, donc ils montaient le jardin de la Grande Côte, ils étaient deux, et puis ils ont rencontré des jeunes qui les ont insultés, donc sale pédé, sale tarlouse, donc je pense que c'est ouvertement homophobe. Et après, en fait, ils se sont jetés sur un des deux, et c'est là qu'ils l'ont traîné par terre, qu'ils lui ont donné des coups. Et par contre, l'autre est resté un peu stoïque devant la situation, il comprenait pas ce qui se passait, après, ils ont appelé la police qui est arrivée et qui a pu attraper les agresseurs. Mais en fait, le procès a eu lieu il y a quelques mois maintenant. Donc, la peine a été jugée et donc, du coup, ça a été reconnu agression homophobe. Par contre, les agresseurs ont fait appel. Voilà, donc on en est là aujourd'hui.
Et est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de votre association ?
Oui, alors en fait, on a créé l'association 4h du Mat
plus d'un an, ouais. C'était fin mai, donc il y a un peu plus d'un an. Donc on s'est dit, c'était les 1 an de l'assaut, on voulait faire quelque chose un petit peu, donc justement cette exposition pour faire quelque chose, concrétiser un petit peu, pour informer les gens, parce que nous, notre but, c'est déjà d'informer, Après, ce qu'on voudrait faire, c'est ouvrir une cellule d'écoute, en fait, pour tous ces jeunes qui ont été agressés, qui ont besoin de parler, besoin de conseils, qu'on les oriente un petit peu. Donc, on aimerait, à terme, ouvrir une ligne d'appel, en fait, où on pourrait essayer de les aider dans leur démarche, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Notre ami qui a été agressé, il a eu beaucoup de mal, il savait pas trop vers qui se tourner et tout. C'est vrai que c'est une démarche assez longue. Et nous, sans prétendre, je veux dire, c'est donner des conseils, mais vraiment orienter les gens vers pour qu'ils se sentent épaulés dans leur démarche, en fait.
Vous avez un peu une idée actuellement des violences homophobes sur Lyon ou même sur un quartier comme les Pentes de la Croix-Rousse? Elles sont encore très fréquentes, elles sont souvent déclarées à la police, ou justement les gens restent encore très discrets, comme les femmes face au viol il y a encore une dizaine d'années qui osaient peu porter plainte finalement?
Ben, c'est vrai que c'est pas facile d'avoir vraiment des chiffres. Nous, donc, on avait fait un petit peu un QCM en fait sur internet pour avec quelques questions en fait pour essayer d'avoir des chiffres, mais c'est pas évident d'avoir vraiment des chiffres, quoi, en fait.
Oui, surtout que les jeunes homosexuels, comme vous le disiez, ne portent pas forcément plainte, soit par honte, soit par peur. Enfin, donc du coup on ne connaît que les agressions qui sont recensées au niveau pénal. Et on a quelques chiffres. Alors c'est sûr, il doit y en avoir une ou deux déclarées par an, quoi, mais pas plus. Après, par contre, tous les jours, on entend des gens « Ah oui, je me suis fait traiter de sale pédé ou de sale tarlouse, j'ai couru parce que... ou j'ai tracé mon chemin parce que je voulais pas avoir de problème, quoi. » Mais donc de violence, vraiment, à ce point-là, je pense qu'il y en a encore pas trop. Par contre, des injures ou même des petites tapes, on va dire, je pense que ça arrive régulièrement encore.
Et c'était une date choisie particulièrement entre la journée de l'homophobie qui a eu il y a quelques jours et la Gay Pride qui aura lieu le samedi 12 Exactement. Juin.
Exactement, oui, on a voulu... En fait, la Gay Pride, bon, c'est très bien, ça rassemble les associations gays et puis tous les gays pour montrer de la visibilité. Mais au fond, ce qu'on trouve important, c'est d'en parler régulièrement, parce que c'est pas quelque chose auquel on pense une fois dans l'année et qu'on oublie le reste du temps, comme beaucoup de ces journées-là. Donc on s'est dit, là, au milieu, les gens sont un peu au fait de ces choses-là, et donc c'est une période assez propice, mais on compte renouveler des actions comme ça, un peu en intermédiaire, pas forcément sur des journées particulières, pour que les gens y pensent, quoi. C'est un peu notre idée, que les gens y pensent.
Là, on est sur un lieu très passant. Il y a des gens qui vous ont fait des commentaires, qui ont écrit des petits mots dans le cahier.
Oui, alors on a quelques mots dans le cahier. On est assez contents d'ailleurs, d'encouragement, qui trouvent que c'est une belle campagne de sensibilisation.
En général, c'est assez positif. On a eu aussi une réflexion un petit peu négative d'un monsieur qui trouvait un petit peu les photos un peu choquantes et que ça donnait une mauvaise image des jeunes du quartier parce qu'il y a pris vraiment personnellement pour le quartier alors que c'était pas du tout le but. Nous, ce qu'on voulait faire, c'était... informer les gens de ce qui s'était passé ici, pas forcément de dire que c'est ce quartier, que c'est forcément que des jeunes, ça a rien à voir. Nous, on voulait.
En plus, c'est pour ça qu'on a pris des masques neutres en fait sur les photos. On voulait pas que ce soit personnalisé. Ça peut être n'importe qui. Et c'est justement le message, c'est que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, juste avant 4h du mat.
Voilà donc pour ce reportage réalisé samedi dernier.
Oui, alors je vous laisserai aller sur leur site internet, vous y trouverez tout plein d'informations. Je me souviens plus de l'adresse exacte, mais vous tapez 4h du mat et vous trouverez. Il est assez complet, on y trouve plein d'informations. Et puis comme toujours, ça vous permettra de vous rendre compte que, heureusement qu'on a des associations qui luttent contre le racisme, tu le disais tout à l'heure, mais contre l'homophobie, contre le sexisme, contre le fascisme, parce que finalement l'État et les collectivités territoriales font pas grand chose d'une manière générale. Donc on les remercie.
Bah tiens, pendant qu'on parle de ça, j'ai un petit mot sur Christine Boutin.
Ah, notre amie.
Homophobe connue.
Homophobe connue.
Homophobe connue. Donc bah là, tout le monde a entendu parler de Boutin. Tout le monde, personne, ceux qui avaient lu Le Canard Enchaîné le savaient. Mais donc il y a son scandale, le scandale de ses 9 500 € par mois pour une pseudo-mission. Le but, c'est de s'acheter, c'est que Sarko, il achète Christine Boutin 9 500 € par mois, grosso modo. En préparation de la présidentielle de 2012. Le truc qui fait quand même un peu réagir tout le monde, c'est que elle a déjà une indemnité de conseillère générale, sa retraite de députée, et donc grosso modo elle touche 17 500 euros par mois pour une retraitée. Ça fait quand même très négligé à un moment où tout le monde est en train de nous dire qu'il faut qu'on travaille plus et qu'on gagnera moins à la retraite. Donc et qu'on partira à la retraite plus tard qu'aujourd'hui. Donc effectivement, on sait que le régime, par exemple, de la retraite des parlementaires est bien plus avantageux que celui du commun des mortels, ce qui est d'ailleurs inadmissible, puisqu'ils ont droit à la retraite alors qu'ils bossent peut-être 4 ou 6 ans, je ne sais plus combien ça marche, 5 ans peut-être. Donc voilà, et donc ça fait scandale, et elle a été lâchée, Christine Boutin, puisqu'ils ont dit qu'il fallait qu'elle plafonne, qu'ils allaient plafonner son salaire en fait pour pas qu'elle gagne trop d'argent.
Enfin, le problème, c'est quand même qu'on lui a fourgué de l'argent pour faire une commission et un travail qui va ne servir strictement à rien, comme toujours. Donc le scandale, il est là aussi. C'est qu'on donne de l'argent à quelqu'un. C'est de l'argent volé, dérobé. C'est notre argent qu'on va donner à une femme qui va s'occuper d'affaires sociales, hein, qui va analyser...
La mondialisation.
La mondialisation et les effets sur le social. Enfin, franchement, c'est du foutage de gueule. Donc c'est ça, le scandale. Donc ça leur permet, en nous disant « Ah là là, il faut qu'elle bloque son argent et tout », ça leur permet surtout d'éviter de pointer du doigt tous les gens qui sont comme elle et qui touchent de l'argent pour ne rien faire.
Ouais. Et ben justement, on reste chez les cathos intégristes avec un petit bilan de ce qui va se passer la semaine prochaine en Loire-Atlantique, à Clisson très exactement, puisque les 18, 19 et 20 juin a lieu un festival de métal qui s'appelle le Hellfest. Et alors, Hellfest en anglais...
Ah, t'aimes bien nous parler de ce festival, hein, quand même.
J'adore. Hellfest en anglais, hein, ça, en français, ça voudrait dire la fête de l'enfer, et les cathos n'aiment pas. Donc, il y a eu une plainte qui a été déposée ces jours par la Confédération Nationale des Associations Catholiques, Familiales Catholiques. Donc, ça rigole pas. Le CNAFC, très exactement. Alors, ils entendent, je cite leur communiqué de presse, « prévenir toute atteinte aux intérêts spirituels, moraux et matériels des familles et exercer sa vigilance sur les agissements ou les messages qui pourraient, alors c'est drôle, attenter aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales ou qui pourraient être considérés comme incitatifs à la violence. » Un festival de musique, ça respecte les droits de l'homme, ça attaque pas les libertés fondamentales et ça incite pas à la violence. Mais bon. Donc voilà. Alors, faut savoir qu'ils sont allés très loin, puisqu'il y a un communiqué de presse qui est tombé, et ils dénoncent, par exemple, les paroles des groupes de métal. Alors, ils demandent aux responsables du festival de donner tous les titres des morceaux qui vont être joués pendant le festival. Il y a 104 groupes, je crois, qui jouent. Ça va être balèze de demander aux 104 groupes leur playlist à l'avance, hein, mais bon, ils ont prévu de faire ça. Enfin, les cathos demandent ça. Et ils dénoncent, paraît-il, que le métal, ça défend la cruauté envers les animaux, le nihilisme, la scatologie, le sexisme, les insultes en tout genre, l'incitation au viol des femmes, à la violence, atteinte à l'intégrité physique, appel à l'incendie d'église, au viol de sépultures, à la nécrophagie, au meurtre, à l'apologie du morbide. Bien sûr, il y a des blasphèmes, des menaces de mort, menaces de génocide, je ne savais pas. Et il nous cite, voilà, quelques-uns des thèmes de cette culture, entre guillemets, plus, pour le moins, douteuse. Alors, ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que c'est du folklore, la musique, c'est... ils se mettent en scène, c'est un spectacle, et qu'un spectacle, c'est pas quelque chose à prendre au premier degré, hein, il peut y avoir plusieurs degrés de lecture. Certes, un ou deux groupes de black metal disent qu'il faut aller brûler les églises, mais il faudrait quand même avoir deux de QI pour les imiter. Hein. D'ailleurs, ceux qui l'ont fait en Norvège sont en prison. Donc voilà, c'est assez drôle, ces gens qui parlent de quelque chose qu'ils connaissent pas. Alors moi, j'espère beaucoup les voir cette année. L'année dernière, ils étaient à l'entrée, je les ai ratés, ils jetaient de l'eau bénite sur les passants. Cette année, ils feront peut-être ça. En tout cas, ils ont prévu des veillées de prière pour essayer d'éloigner le mal. Donc ils seront dans l'église du village à Clisson. Ils vont prier toute la soirée pour éloigner le mal.
Mais c'est les mêmes qui s'en prennent au rap parce qu'ils seraient forcément et intégralement sexistes, violents. Ils veulent tous tuer des flics. Hein. Il suffit d'écouter un peu du rap pour s'apercevoir que c'est pas ça. Toutes les musiques à toutes les époques ont été stigmatisées par les cubénis comme ça, hein, qui pensent que il faut rester chez soi, que la femme ne doit pas travailler, faire des enfants et que l'homme doit écouter bien sagement avec ses pantoufles aux pieds une petite musique douce. Et voilà. présente.
Et je suis allé voir sur un site qui s'appelle Catholique en campagne, un bon site de propagande. Ils ont fait un bon article anti-Simone Veil aussi. Ben c'est la personne qu'ils détestent le plus en France, je pense, c'est Simone Veil, bien au-dessus du heavy metal. Hein, parce que Simone Veil, c'est elle qui a fait la loi Onise, je ne sais pas comment on dit, mais qu'ils détestent. Donc ils ont fait un bon article anti-Simone Veil, assez honteux. Et puis voilà, il y a plein de choses comme ça, ils sont vraiment très réac. Et il parle de ça au nom de la liberté, alors qu'eux, ils essayent de tout interdire. C'est assez incroyable. Tu voulais parler de...
D'IKEA.
Ah bah ouais, on les aime bien.
Il y a longtemps qu'on n'a pas parlé d'IKEA, qu'on s'en est pas pris à eux. Alors, je suis très contente, puisqu'ils ont été condamnés à 30 000 euros d'amende par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour destruction d'espèces protégées.
Et c'est marrant, parce que dans leur discours, c'est une entreprise écolo, un peu, IKEA.
Ouais, alors là, c'est pas pour les meubles. Hein, qu'ils ont été attaqués, mais c'est lors de la création, la construction de le nouveau
magasin,
plateforme logistique. C'est même pas un magasin, c'est une plateforme logistique qui est donc sur le port à Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône. Ils ont tout simplement défriché les alentours pour construire, bâtir cet entrepôt. Mais ils y sont allés gaiement avec la faune, à la flore présente sur les lieux. Hein, puis alors pas qu'à moitié, ce qui fait que en 2008 il y a un agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui, par un procès-verbal, a constaté les dégâts et la destruction de toutes ces espèces, fleurs, oiseaux, reptiles, sur le site. Et donc, ils ont été condamnés, ce qui est plutôt une bonne chose, puisqu'effectivement, comme tu le disais, c'est les premiers à nous expliquer que il faut attention qu'ils replantent, à chaque fois qu'ils détruisent les arbres. Alors, c'est toujours rigolo ce discours de nous dire « Ah, mais vous inquiétez pas, hein, je détruis, mais je reconstruis. » Ça, c'est... comme j'aime bien dire cette expression, du foutage de gueule encore une fois. Il faut savoir que c'est quand même un entrepôt qui fait 35 mètres de haut, 65 000 mètres carrés, ce n'est pas rien, et qu'il accueille donc les conteneurs de marchandises qui viennent d'où ? Qui viennent d'Asie du Sud-Est.
Bah oui.
Et oui, bien évidemment. Donc le développement durable, c'est pas pour tout de suite chez IKEA.
Non. T'avais une autre entreprise encore, une
même. Ouais, belle... Carrefour aussi, on aime bien s'attaquer à Carrefour. Bon, bah là, c'est une mauvaise nouvelle, puisque Carrefour va supprimer 500 emplois en back-office, comme on dit dans le milieu. Hein, vous savez, le back-office, c'est tout ce qui concerne la gestion des stocks, la réception des marchandises, tout l'administratif en arrière des magasins. 505 équivalents temps plein précisément. Pourquoi ? Eh ben, tout simplement parce qu'il va y avoir un nouveau logiciel qui s'appelle Attica, un joli nom, hein, pour du coup mettre à la rue plein de gens, qui va en fait vers le travail de tous ces gens. Donc voilà, une bien mauvaise nouvelle. Donc ils ont lancé un plan de départ volontaire. On est bien malheureux pour ces salariés qui, encore une fois, sont matraqués par Carrefour, grâce à quoi la modernité, un vilain logiciel. Et puis, dans la même idée, Monsieur Novelli a pleuré dans les médias. Mais pleuré dans les médias. Pourquoi ? Puisque le Conseil de Paris, elle a eu la bien bonne idée de refuser de classer le quartier Haussmann en zone touristique. Et c'est une bien bonne idée. Pourquoi ? Parce que vous savez que maintenant, quand on classe un quartier, un territoire en zone touristique, ça permet de lui attribuer tous les statuts possible pour que les privilèges donnés au patron de vous faire travailler le dimanche vous soient accordés. Hein. Je vous rappelle que depuis cette fameuse loi sur le travail le dimanche, tout a pété, hein, le code du travail, tout s'est cassé la figure et que donc vous êtes corvéable et franchement largement exploité lors de ce travail le dimanche. Donc là, c'est plutôt une bonne chose. Alors, Monsieur Novelli s'est répandu dans la presse en expliquant que quand même, c'est pas normal, Paris, c'est la première destination mondiale, on nous ressort ce grand discours, qu'il y a 12,5% des emplois salariés à Paris qui sont liés à l'activité touristique. Moi, je lui répondrais, et alors, c'est que 12,5%. C'est pas tant que ça. Et lui, il nous explique que donc, moins de touristes, c'est moins d'emplois, c'est moins d'activité commerciale, et c'est donc cela nécessite sereinement, on regarde les choses. Nous on les regarde très sereinement, on est très content que ça soit pas ouvert le dimanche, parce que franchement, prendre des touristes pour les vaches à lait et penser que ils vont aller dans les grands magasins acheter quand ils sont nord-américains, c'est un peu quand même exploiter le porte-monnaie du touriste. C'est comme quand Monsieur Sarkozy voulait envoyer tout le monde aux Virgines le dimanche, c'est pareil, je pense qu'un Canadien, un États-Unien n'a rien à faire d'aller acheter un CD à Paris, c'est pas ce que les touristes viennent chercher. Donc voilà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle.
Et Novelli, il est secrétaire d'État.
Secrétaire d'État au commerce et au PME.
D'accord.
Hervé de son petit nom.
Alors, deux petites infos pour ceux qui protègent les animaux, qui défendent les animaux. Et ils en ont finalement pas mal besoin, puisqu'il y a eu un gros retour en arrière. Donc là, il y a deux infos sur ce retour en arrière. Là, il y a 11 organisations de protection animale qui ont écrit à Sarko, donc une belle lettre, pour lui demander de mettre fin à l'abattage rituel des animaux. Grosso modo, on vous rappelle que dans les années 70, au nom, pour éviter en fait de faire souffrir les animaux, avant de les tuer, on les endort. Ce qui a effectivement permis un énorme progrès au niveau du bien-être animal. Alors il y a encore beaucoup à faire, hein, puisque les animaux sont encore, notamment d'élevage, sont assez souvent torturés, mais ça, c'était plutôt positif. Sauf que depuis la montée du communautarisme, au nom de deux religions monothéistes que vous connaissez, hein, c'est quand on veut manger halal ou kasher, il faut que les animaux souffrent. En fait, grosso modo, il faut que les animaux souffrent pour avoir le droit de manger cette viande. C'est-à-dire qu'on les égorge vivants. Et donc, ces 11 associations demandent que ces dérogations soient enlevées. Ils ont qu'à toujours avoir les imams ou tout ce qu'ils veulent pour bénir la viande, tout ce qu'ils veulent, mais qu'ils arrêtent de faire souffrir les animaux. Donc voilà, je pense pas que cette mesure, cette lettre porte ses fruits, malheureusement. Mais effectivement, on rappelle que quand vous mangez de la viande halal, l'animal a souffert lorsqu'il est mort. Alors le problème finalement, c'est pas tant de la viande halal aujourd'hui, parce que en fait, devant le développement du communautarisme, on a généralisé dans les abattoirs les abattages rituels, sans que la viande d'ailleurs soit qualifiée de kasher ou d'halal. Hein. C'est pour des raisons de simplicité, on revient finalement à l'abattage qu'il y avait autrefois, notamment sur le poulet, où presque tous les poulets aujourd'hui sont égorgés sans être endormis. Voilà. Et puis, toujours ceux qui défendent les animaux face aux méchants tueurs d'animaux, ben là, il y a un énorme recul. C'est le lobby de la chasse. Alors, on rappelle, le lobby de la chasse, hein, c'est moins de 2% de la population qui chasse, et ils arrivent à avoir toutes les lois qu'ils veulent. Hein, comme quoi, 2% de la population peut diriger un pays, hein, ça, c'est clair. Ils sont arrivés à faire voter une loi incroyable. Une loi, c'est la seule loi qui protège une activité récréationnelle. Et la loi, elle dit cela, c'est l'article R428-12-1 qui dit « est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par des actes d'obstruction concertée, d'empêcher le déroulement d'un ou plusieurs actes de chasse tels que définis par l'article, etc. etc. » Donc aujourd'hui, grâce à cette loi, un décret très exactement, on n'a plus le droit de manifester contre la chasse, d'empêcher la chasse à courre. Ça vise en fait les chasses à courre. Ces chasses organisées par ces gros riches politicards ou bourgeois qui prennent plaisir à torturer ces animaux. Il y a eu quelques interventions de gens qui bloquaient ces chasses à courre, qui faisaient des manifs. Eh ben, ils n'auront plus le droit. Voilà. C'est quand même assez impressionnant, ce petit recul. Tu as autre chose, je crois ?
Oui, je voulais moi vous parler des parkings lyonnais. Il y a une enquête de la société Lyon Parc Auto, qui est en fait une étude de Coparly, hein, c'est le comité pour le contrôle de la pollution atmosphérique dans la région lyonnaise, qui est parue cette semaine. Alors, selon cette étude de Coparly, les parcs de stationnement sont beaucoup plus exposés au dioxyde d'azote et au benzène que les abords de l'autoroute A7 ou des grands axes routiers de l'agglomération. Et c'est évidemment les plus anciens et les plus fréquentés qui sont touchés. Alors, en fait, le dioxyde d'azote, il est 3 fois plus concentré à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ah, parce qu'évidemment, hein, c'est des espaces qui sont clos. Et en fait, le système de ventilation fonctionne finalement pas assez bien, puisque c'est un système qui se déclenche automatiquement à chaque fois que la concentration en monoxyde de carbone est trop élevée. Mais du coup,
les autres gaz,
ils restent, sont pas analysés. Donc, comme le monoxyde de carbone, bah, il est moins élevé qu'il y a quelques années, parce que bon, il y a un travail qui est fait aussi sur les voitures, et puis. Enfin bon, du coup, ils arrivent à mieux gérer ce problème. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas pris en compte encore les autres répercussions de ces toxines. Et là où évidemment il y a un gros problème, c'est pas vous quand vous allez avec votre petite voiture et t'es 5 minutes dans le parking.
C'est pour les travailleurs.
Et ouais. Les Lyon Parc Auto promet qu'ils vont revoir leur système de ventilation automatique, ils vont tout régler pour que tout se passe bien. Enfin, c'est fait quand même longtemps que ces gens, pour certains, doivent travailler dans ces parkings. Donc on espère qu'ils sont pas trop inquiets pour leur santé. Alors les parkings, par exemple, les plus pollués au dioxyde d'azote, c'est le parking Poncet, les parkings Pardieu et Hôtel de Ville Hétéro, hein, c'est évidemment des parkings qui sont très fréquentés. Mais par exemple, les parkings les plus pollués au benzène, et ben dedans on y retrouve le parking de la Croix-Rousse, hein, qui est un parking qui est finalement le parking Gros Caillou, pardon, qui est un parking qui n'est finalement assez récent. Donc ça veut dire que malgré les dernières études de santé publique, malgré tous les beaux discours, ben on arrive encore à construire aujourd'hui des choses qui sont quand même pas terribles. Et puis on parallèlement, on vous avait parlé la semaine dernière de la ville de Lyon, hein, qui se vantait de ses véloves tellement fabuleux, et ben là, le Grand Lyon, il se vante de son premier mur végétal installé dans un parking souterrain. Hein, ça serait le système à la mode anti-pollution. Alors, bon, il me semble que ça fait beaucoup marrer les écolos, ce système.
De ouais, toute façon, c'est une aberration. C'est, pour lutter contre la pollution, il faut ne pas la créer. Quand on essaye de transformer cette pollution en quelque chose de moins polluant, on pollue à son tour avec de l'énergie, avec plein de choses. Ces murs végétalisés, ça consomme beaucoup d'énergie, ça enlève une petite partie de la pollution, mais ça consomme de l'énergie qui va créer de la pollution plus loin ailleurs. Donc en fait, c'est un cercle vicieux de vouloir lutter. Dépolluer, c'est toujours une mauvaise idée, en fait. Même si on se dit, bah, c'est bien de dépolluer tel truc. Non, la bonne idée, c'est de ne pas créer la pollution. Donc là, effectivement, on va à nouveau polluer pour dépolluer. C'est ça le principe.
Oui, puisque par exemple, il y a des projecteurs pour éliminer ce mur. Parce que forcément, s'il est mis en place, il faut qu'il soit beau, il faut qu'il soit vu, juste que ce n'est pas son but premier. Donc il y a des projecteurs.
Qui vont consommer de l'énergie électrique, qui, elle, pollue. Alors par exemple, ça va polluer avec de la radioactivité, mais qui n'est pas à Lyon, qui est ailleurs. Donc en fait, ça nous permet de décentraliser la pollution, de dire bon, on enlève la pollution à cet endroit-là, mais on en crée un autre endroit. Voilà, c'est vraiment très hypocrite. C'est de l'installation électoraliste.
Oui, et puis ça coûte beaucoup d'argent à entretenir, déjà à créer et à entretenir, ce qui veut dire qu'encore une fois, au lieu de prendre le problème à la source et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de pollution, on essaye de petit bout par petit bout de créer des choses qui, soi-disant, enlèveraient cette pollution, juste que tout ça coûte très cher et que la pollution, elle est toujours là, quoi.
Oui, juste deux petites infos, moi, pour terminer. C'était à Montreuil, entre Montreuil et Bobigny, il n'y a pas très longtemps, le 30 mai, entre 1h20 et 2h15 du matin. C'est une radio commerciale qui avait trouvé cette info. C'est un jeune de 16 ans qui était soupçonné d'avoir fait un doigt d'honneur à la police. La police passe, le jeune aurait fait le doigt d'honneur. Les policiers s'arrêtent et au lieu de l'emmener au commissariat de police, ils l'ont emmené dans un terrain, ils l'ont tabassé. Donc, alors, je pense qu'entre le 30 mai et le 9 juin, le 10 juin, date d'aujourd'hui, il a fallu le temps que tout le monde vérifie les propos des jeunes, que ce soit tout un peu recoupé. Et là, on apprend que l'IGS, donc la police des polices, va enquêter. Donc, en général, quand l'IGS enquête, c'est qu'ils ont eux-mêmes des doutes sur le comportement des policiers. Voilà. Et puis, amis téléchargeurs, bonne nouvelle, vous avez encore jusqu'à septembre, tranquille peinard, puisque on a appris aujourd'hui que Adopi fait la gueule. Donc Adopi, c'est la haute autorité de lutte contre les voleurs là, qui téléchargent. Et puisque normalement, ils avaient prévu d'envoyer les premiers mails au mois de juillet, donc tout était en place, hein, 4 entreprises récupèrent les adresses des ordinateurs, les adresses IP des gens qui téléchargent, et puis ils récupèrent les mails et ils envoient grâce aux fournisseurs d'accès. Sauf que la CNIL s'y est mêlée, elle n'a pas encore donné son avis, ce qui veut dire que ça devrait repousser à septembre les premières chasses aux téléchargeurs. Donc voilà, encore 2 mois, enfin tout l'été, de peinard. C'est tout.
Faites du stock,
exactement. Pour l'instant, on vous rappelle, hein, les réseaux qui sont surveillés seront avant tout le peer-to-peer. Dans un deuxième temps, peut-être les torrents, mais ils n'en sont toujours pas là. Donc voilà, il faut laisser tomber le peer-to-peer. Et des choses comme les téléchargements sur des sites comme RapidShare ou Mega Upload sont difficilement repérables pour eux. Donc y a les pirates ont toujours bien 2-3 longueurs d'avance sur le législateur et sur les entreprises et la haute autorité qui commande à ces entreprises de repérer les téléchargeurs.
Oui, et puis ils sont bien emmerdés parce que tu parles de RapidShare et de Mega Upload. C'est des sites qui vous proposent de payer pour télécharger plus vite. Et il faut savoir que lorsque vous allez par exemple sur un site qui a des liens pour aller télécharger sur ces deux sites, il y a des gens souvent qui mettent des commentaires et les gens sont prêts à payer pour pouvoir télécharger plus vite. Alors c'est évidemment pour des gens comme toi et moi, ça peut être assez hallucinant de dire on télécharge illégalement, mais en même temps on est capable de payer pour faire quelque chose d'illégal. Hein, c'est aussi une nouvelle génération qui voit les choses autrement. Mais tout ça c'est de l'argent, c'est une économie qui est très très importante et qui est très très forte. Donc ils sont un petit peu quand même embêtés aussi par cette économie qui n'est pas une économie parallèle, hein, qui est une économie bien réelle, et que le capitalisme se mord un peu la queue sur ce coup-là.
Ouais, voilà. Bon, bah, c'est l'heure, hein, il est 8h, on va faire un bref agenda et puis on va vous laisser en compagnie des bandes continues, puisqu'a priori nos amis de la bande Spartacus n'ont pas l'air bien là. L'agenda, c'est quoi ? J'ai rien noté pour ce soir, hein, donc vous pouvez faire ce que vous êtes libre. Demain soir, j'ai rien noté non plus, mais vous êtes libre aussi. Alors, samedi, j'ai noté, il y a la Gay Pride samedi, je ne sais jamais où c'est moi, donc c'est vers le parc, ils partent devant la porte dorée du parc Tête d'Or, c'est pas ça
La porte des écoles, non, c'est pas ça.
Ouais, donc voilà,
renseignez-vous, parce que vous voyez, on n'a pas pris les notes exactement sur nous, mais c'est ce samedi, donc 12 juin, il y a la Gay Pride.
Et puis, pour ceux qui sont dans le quartier, il y a un espace de gratuité, un repas de quartier, place Colbert, organisé par Tirmont-la-Pente, donc parce que c'est le deuxième samedi du mois et qu'il y a les bennes encombrant sur la place Colbert. Donc ça commence à 10h30. Si vous avez des affaires, notamment des vêtements en bon état que vous mettez plus, vous les amenez, on les met sur la zone de gratuité et les gens qui en ont besoin viennent se servir. Donc voilà, un repas de quartier, donc on amène à manger et on partage avec les autres. Et puis pour ceux qui n'ont pas le temps de faire à manger, vous avez toujours la solution du four à pizza, puisqu'il y aura le four à pizza. Vous payez le prix libre, comme on dit, et voilà. Donc c'est samedi, ça commence à 10h30, et puis ça se termine vers 16h-17h, place Colbert. Le dimanche, un truc important, Rebellion TV. Qu'est-ce que c'est ? Rebellion, c'est le site d'information dont on sert beaucoup, et ils ont monté un équivalent au site de partage de vidéos qu'on connaît, qui sont très connus. Et donc voilà, ça se met en place doucement, et l'inauguration c'est ce dimanche. Donc ils sont au Dodescadon, 51 montée de la Grande Côte, sur le premier arrondissement, à partir de 18h. Donc ils présenteront ce que va être Rebellion TV, et puis il y aura aussi l'occasion de rencontrer des gens qui parlent de médias alternatifs, et puis de manger, puisqu'il y aura de quoi manger, à prix libre, et ça sera des repas végétariens. Donc voilà, ça va durer toute la soirée au Dodescadon. Et puis sinon, pour ceux qui sont du côté du 7e, à l'atelier, 91 rue Montesquieu, le ciné-club de dimanche soir, c'est Millennium, qui est projeté à 20h et à prix libre aussi. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Autre chose ?
Ben non, on va y aller.
Bye bye.
Ciao.
Et on vous laisse en compagnie des bandes continues de la plus rebelle des radios.